EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est « Ne te condamne plus ». Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Christine Beumier, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Michael répondra à la question « Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut perdre son salut ?» Et nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine « Le conflit est terminé » de Andrew Womack. Et nous terminerons avec la rubrique « Témoignage » dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage d'un homme qui a réellement connu Christ sur enseignement.com. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Oh, c'était très harmonieux. Est-ce que vous vous êtes entraînés? On aurait dit une chorale un peu. Bienvenue à nos invités, pasteur Pierre et Christine Beumier. Merci d'être avec nous.
Heureux d'être là.
Ben, c'est un plaisir. Vous allez bien?
Ah oui, super.
Merveilleux, merveilleux. C'est pas la première fois que vous êtes avec nous sur le plateau de Bonjour chez vous. Et à EMCI, vous êtes des habitués. Je pense que tout le monde vous connaisse. Vous avez un merveilleux ministère qui s'appelle Apollos, dans lequel vous œuvrez dans la guérison et vous prêchez la parole de Dieu. Un beau ministère d'enseignement également.
Gloire à Dieu.
Depuis combien d'années maintenant?
40 ans.
Waouh, wow. Hey, on est tous impressionnés là.
On est tous plus jeunes que 40 ans.
Effectivement, aussi. Hey, c'est merveilleux, donc c'est un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de ne pas se condamner et surtout se sentir condamné. Mmh. Et comment on pourra résister à cette condamnation qui ne vient pas de Dieu. Ça, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Et donc, on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Christine, le titre de votre pensée est « Ne te condamne plus ».
Voilà. Eh bien, je pense que c'est un message qui concerne chacun. Je crois qu'à certains moments, on a tous eu cette pensée de se condamner. On a fait des choses qu'on regrettait, des pensées qu'on regrettait, des attitudes, des paroles qui ont fait parfois du mal autour de nous et on s'est rendu compte de ce qu'il y avait dans notre cœur et qui n'était pas toujours très joli. Parfois, il y a des actes qu'on a eus et qui sont irréversibles, qu'on ne peut même pas corriger. Mais la première pensée est une pensée généralement de tristesse. Et c'est quelque chose de normal. Je crois que la première réaction, quand on a fait quelque chose de mal, on s'en veut. L'important, c'est de ne pas rester sur cette situation-là. Le fait, simplement, c'est que il y a notre conscience qui nous reproche ce qu'on a fait. Et donc, c'est bien de savoir qu'on a une conscience et de ne pas la négliger. Mais la parole de Dieu nous parle de deux sortes de tristesse. Une tristesse qui est selon Dieu et une autre qui est selon le monde et qui, elle, va nous conduire à la dépression, alors que la tristesse selon Dieu est là pour nous relever. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, ce que l'apôtre Paul nous dit. « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. » Donc, il y a deux types de tristesse. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, qui nous permet de réaliser ce qu'on a fait de mal et qui nous donne envie de changer, qui nous dit on ne peut pas rester avec cette attitude-là, on ne peut pas garder les mêmes pensées, on ne peut pas refaire ces choses. Et cette tristesse-là, on ne la regrette pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir que lorsque nous reconnaissons une faute, que nous sommes d'accord avec Dieu pour reconnaître cette faute, eh bien Dieu, lui, il nous pardonne. C'est ce que 1 Jean chapitre 1 va nous dire, on va lire à partir du verset 8. Et il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Alors c'est clair que quand on se condamne, c'est qu'on reconnaît déjà qu'on a péché, donc la vérité est en nous. Et mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il manifeste sa justice en nous pardonnant nos péchés parce que Jésus a été déjà puni et condamné à notre place pour que nous ne le soyons plus. Amen. Et en plus, il nous purifie de toute iniquité. Il vient purifier notre cœur pour que les racines qui ont produit ces mauvaises attitudes soient ôtées de notre cœur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits-enfants, dit l'apôtre Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est clair, c'est le but à atteindre. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oh, combien nous avons besoin de cet avocat qui plaide en notre faveur. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors recevons ce pardon de Dieu. Croyons qu'il est celui qui nous pardonne, qui plaide pour nous et qui vient nous accorder ce pardon, mais on a besoin de le recevoir gratuitement, pas comme un mérite, mais simplement comme une grâce, comme un cadeau que Dieu nous fait lorsque nous avons commis des fautes. Parce que l'autre tristesse, la tristesse du monde, elle est une tristesse selon l'esprit de ce monde. Écoutez bien le raisonnement qu'on peut avoir. Je ne tolère pas qu'une personne comme moi ait pu commettre une telle faute. Je m'en veux encore et encore, ça n'aurait pas dû arriver. Finalement, je ne vaux rien et mieux vaut mourir. Et là, ça veut dire que j'attribue ma valeur est basée sur ma capacité à tout faire parfaitement et je m'en veux parce que je n'ai pas réussi à faire les choses parfaitement. Et là, mes amis, c'est de l'orgueil. Tout simplement, c'est croire que nous-mêmes, on est capable de se sauver par soi-même, on est capable d'être parfait par nous-mêmes. Et là, c'est pas vrai, parce que notre cœur, c'est vrai qu'il est tortueux par-dessus tout. Et je crois que c'est important de reconnaître que nous avons besoin de Jésus-Christ et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la tristesse selon Dieu va nous amener réellement à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux changer, mais aide-moi à changer parce que sans toi, j'y arriverai pas. Un exemple frappant des deux tristesses dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Pierre et de Judas. Les deux ont trahi Jésus à leur manière. Bien sûr, les conséquences n'ont pas été les mêmes, mais quand même, lorsque Pierre a trahi Jésus et qu'il a nié par trois fois ne pas le connaître, ben, lui qui avait vécu pendant 3 ans et demi avec le maître, tout comme Judas d'ailleurs, c'était impensable qu'il puisse faire cet acte. On n'aurait jamais supposé qu'il soit capable de renier Jésus alors qu'il avait dit « Mais Jésus, moi, je te suivrai jusqu'à la mort, je ne dormirai jamais. » On peut comprendre à quel point Pierre pouvait être déçu de lui-même après avoir trahi Jésus. Mais les deux avaient entendu Jésus qui disait à la femme adultère « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Elle, que tout le monde condamnait, tous les pharisiens disaient « Elle doit mourir. » Mais ils savaient que Jésus était quelqu'un qui ne condamnait pas et qui donnait une deuxième chance. Et nous savons que bien souvent, c'est plus qu'une deuxième, c'est parfois bien plus que cela. Mais Judas, lui, après avoir livré Jésus pour 30 pièces d'argent, il a réalisé que son acte avait amené la condamnation de Jésus. Et écoutez bien ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Et là, il y a la différence entre le remords et la repentance. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pas un instant, il n'a imaginé que Jésus pouvait lui pardonner. Pas un instant, il a cru, mais « Oh, j'ai fait quelque chose de terrible, mais je vais demander pardon, je sais que le maître, il est bon. » Non, il s'est reproché ces choses et ça l'a conduit à la mort. C'est ce qu'on appelle le remords. C'est la tristesse selon le monde. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Pierre, par contre, par 3 fois, a renié Jésus en jurant ne pas le connaître. C'est ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 26, verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. C'est pas seulement « je ne le connais pas », mais vraiment des imprécations et à jurer « je ne connais pas cet homme ». Aussitôt, le coq chanta. Et dans Luc 22, 61, on lit « Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras trois fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre aussi a été pris de cette tristesse terrible, mais c'est la tristesse d'avoir renié son maître. Mais le regard de Jésus, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Cette tristesse l'a ramené à Jésus. Au lieu de l'en éloigner, la tristesse selon Dieu nous ramène à Jésus pour recevoir de lui le pardon. Amen. Et on va retrouver Pierre qui va être le premier à rentrer dans le tombeau après la résurrection de Jésus. Pierre qui va s'approcher de Jésus aussi après la résurrection et à qui Jésus va lui demander trois fois « M'aimes-tu ?» Et il va dire « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime bien comme un ami, mais t'aimer de l'amour agapé, tu sais que je ne suis pas capable, il n'y a que toi qui peux me le donner. » Mais n'empêche, il ne s'est pas découragé. Et il y a une autre chose que l'on voit aussi, que la s'auto-condamner nous paralyse, ça nous empêche vraiment de marcher dans les voies de Dieu. Et il y a un exemple aussi dans la parole de Dieu avec le paralytique, cet homme qui a été porté par quatre brancardiers qui, eux, avaient la foi pour lui. Et Jésus a dit, en voyant la foi des porteurs, il a dit à cet homme, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il ne lui a pas dit tout de suite, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » D'abord, il l'a rassuré, il lui a dit, « Tu sais, tes péchés, tu crois que c'est tes péchés qui t'ont mis là ? Eh bien, ils sont pardonnés. » Et après cela, le cœur de cet homme a été soulagé de voir que Jésus était, lui avait pardonné ses péchés. Et Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et c'est ainsi qu'il a pu se lever. Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et avec lui, s'il ne te condamne pas, cesse de te condamner parce qu'il est une espérance et ton espérance ne sera pas anéantie. Alors, sois bien.
Amen. 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 Merci beaucoup, Christine. Alléluia. Quelle belle pensée qui nous rappelle des merveilleuses promesses que nous avons dans la parole de Dieu. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que vous nous avez enseigné, Christine, cette vérité. Nous ne sommes plus sous le joug de la condamnation. Et pourtant, malheureusement, certains chrétiens se condamnent encore et ça arrive malheureusement encore, se privant en fait de ce privilège que nous avons. Et j'aimerais juste qu'on regarde tout de suite, avant de vous donner la parole, une vidéo de Romain qui a fait un micro-trottoir. Il était en Guadeloupe cette fois, notre cher reporter Romain. Je vous laisse regarder.
Bonjour chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV, aujourd'hui en Guadeloupe, ici en Basse-Terre. En ce moment, je réalise une enquête auprès des chrétiens qui m'entourent afin de leur poser la simple question: vous est-il déjà arrivé de vous sentir condamné ou indigne lorsque vous priez? Nous sommes en Guadeloupe, aujourd'hui en Basse-Terre, c'est parti! Je suis avec Agnès, bonjour Agnès.
Bonjour.
Je suis avec Manuela, bonjour Manuela.
Bonjour Romain.
Bonjour Joanne.
Ça va Romain?
Ça va super, merci. Dis-moi Kathleen, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir condamné et indigne quand tu pries?
Ça peut arriver des fois, où je crois que je ne mérite pas l'amour de Dieu ou quoi.
On ne fait pas tout le temps le bien, et quand on vient devant Dieu alors qu'on sait qu'il nous pardonne, malgré tout ce qu'on fait, on se sent quand même indigne des fois.
On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait pour Dieu. Donc oui, c'est déjà arrivé.
Mais j'arrive à surpasser ça parce que je sais que Dieu nous aime.
Ça nous arrive de nous dire, voilà Seigneur, j'ai mal fait. Peut-être que là, j'ai pas fait ce que tu voulais. Donc ça nous arrive parfois en nous approchant du Seigneur de dire, Seigneur, pardon. Et est-ce que vraiment je suis digne de toi, quoi? Parce que
on sent effectivement qu'on est condamné, qu'on est lié parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. On n'a pas agi en accord avec lui.
quand je sais que mes pensées, mes actions, mes paroles n'ont pas été correctes. C'est comme si en fait je rentre dans le palais de la personne la plus importante au monde. On ne va pas rentrer n'importe comment. On retire ses chaussures, on lave ses pieds et là on demande pardon.
Ben, je me mets encore plus en prière, je passe encore plus de temps dans la parole et je me dis que là je serai, Dieu va me fortifier. Mais vraiment je prie sans cesse.
Chaque chose que tu fais mal dans ta vie après avoir senti l'amour de Dieu, tu te dis Seigneur, je suis vraiment indigne de te connaître.
Je n'aime pas ta question, Romain.
On n'aime pas ta question, Evelyne.
Non. Je refuse cela, parce que je sais que c'est simplement une attaque. Nous ne sommes pas condamnés. Une fois que, voilà, que je demande pardon, s'il y a quelque chose qui s'est mis entre lui et moi, et revenir au cœur du père, quoi.
Quel âge as-tu ?
10 ans et demi.
Dis-moi, Sarah, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir condamnée ou indigne lorsque tu pries?
Oui, puisque tout le monde n'est pas parfait. Si on fait du tort, on n'est pas parfait. Alors du coup, on ne sera pas bien quand on prie. Alors on va se sentir indigne parce qu'on a fait des choses mal.
Super, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller à la rencontre des chrétiens partout dans le monde et de constater qu'on partage la même foi. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici en Guadeloupe, aujourd'hui en Basse-Terre. On se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine.
Donc on voit que les gens, ça leur arrive de se sentir condamnés. Bon, souvent, ils ont la bonne attitude, ils se reprennent vite en main. Elle était mignonne, la petite fille là, de 10 ans. Elle était très lucide en plus.
Tout à fait.
Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est de penser que quand Jésus était à la croix, le rideau s'est déchiré en deux. Mmh. Et l'accès au lieu très saint nous a été donné. Donc nous qui étions pourtant pécheurs, indignes, ce rideau a été déchiré et grâce à la croix, on a accès au lieu très saint. On a accès à notre Seigneur. Il y a plus de condamnation. Ce lieu très saint qui était réservé uniquement à des sacrificateurs qui avaient besoin de passer par tout un tas de rituels, aujourd'hui nous est disponible. Et se priver de cet accès, c'est en fait recoudre le rideau pour limiter cet accès au lieu très saint. Et c'est ça qu'on fait quand on se condamne et quand on limite en fait l'accès au Seigneur.
Oui, tout à fait. La condamnation, c'est souvent ce qui empêche les chrétiens d'aller plus loin, même de prier. Ça les stoppe dans leur vie spirituelle, parce qu'ils se sentent tout d'un coup, ouah, Dieu va pas me répondre, etc. Et puis c'est justement à ce moment-là qu'il faut considérer les promesses de la parole. Mm-hmm. Et entrer dans le lieu saint, comme tu dis, on a un souverain sacrificateur qui a été tenté comme nous à toute chose, et qui peut répondre à nos demandes. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve.
Vraiment, quelle grâce.
Est-ce que la pensée que pasteur Christine a partagée, le Romains 8:1 de qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est vraiment une révélation, moi, dans ma vie personnelle. C'est venu comme une révélation. Et ça doit l'être pour les gens, pour comprendre que oui, Jésus a payé le prix, le sacrifice a été fait, le voile est déchiré, nous avons accès au Père. Oui, nous pouvons chuter, mais l'ennemi, comme vous avez dit, la tristesse qui vient du diable et celle qui vient de Dieu, c'était en fait, une mise à jour, c'est un rappel pour te dire oui, tu peux te relever, mais celle qui vient du diable, c'est pour te condamner davantage. Et quand on chute, par exemple, l'ennemi va nous dire, mais non, là, tu vois, là, tu t'es disqualifié, tu ne peux plus y retourner. Et il va encore nous amener davantage à creuser notre trou. Mais vraiment, c'est très bien ce que vous avez relevé, que non, que le Seigneur, au contraire, nous dise, non, je te condamne pas. Non, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Viens vers moi, je peux te relever, je peux te restaurer. Et c'est ça, ça doit être notre réflexe en tant que chrétien. Et on a vu dans la vidéo que plusieurs personnes, dépendamment, avaient une approche différente, mais vraiment l'approche doit être celle que vous avez évoquée dans votre pensée, justement.
Moi, il y a plusieurs années, j'étais dans une réunion et le prédicateur a dit en fait, il y a une différence entre la conviction qui vient du Saint-Esprit et la condamnation qui vient du diable. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Je pense que je le savais intellectuellement, mais ce jour-là, c'est devenu vraiment une parole révélée. Il dit la conviction du Saint-Esprit amène une solution et de l'espoir. Et la condamnation qui vient de l'ennemi amène rien du tout. Ça amène la mort, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien, c'est fini. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon problème, je fais un mélange entre ce qui vient de la conviction du Saint-Esprit. Oui, il y a des choses à changer dans ta vie, mais mais la condamnation venait tout de suite et c'était comme c'est trop tard ou ça n'arrivera jamais, t'y arriveras jamais. Et personnellement, moi, ça m'a tout le temps beaucoup encouragée depuis ce jour-là. Je me dis, ok, quel est le fruit de cette pensée? Bah, c'est pas une conviction du Saint-Esprit, c'est vraiment de la condamnation. C'est de savoir, ça mène de la mort en moi. Bah, c'est de la condamnation et la condamnation nous limite parce qu'on agit dans la peur. On a peur que Dieu nous aime plus, on a peur que Dieu nous rejette. Et quand quelqu'un est dans la peur, c'est pas quelqu'un qui est épanoui puis qui libère tout ce qu'il a, quoi. On fait pas les choses parce qu'on aime Dieu, on fait les choses parce qu'on a peur que Dieu ne nous aime pas. Donc au final, on est très très restreint dans nos actions.
Exactement. J'ai aimé dans votre pensée aussi l'histoire de la comparaison entre Pierre et Judas qui ont réagi vraiment différemment par rapport à cette condamnation. L'un a eu la bonne attitude et l'autre, ben, malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Et on voit vraiment cette importance de résister en fait à ces pensées de condamnation qui peuvent nous tomber dessus, nous assaillir, parce que sinon, justement, on se laisse complètement dominer par ça et on se retrouve à terre. Et puis, on sait comment a terminé Judas. C'était pas joli, joli. Alors que même Judas, en fait, aurait pu se repentir, aurait pu changer d'attitude et aurait pu finalement hériter lui aussi du salut et de la vie éternelle. Quand on y pense, ça paraît fou, mais c'était accessible pour lui aussi. Et Pierre, lui, qui se sentait tellement misérable, le Seigneur l'a vraiment relevé et Pierre s'est laissé relever, en fait, par le Seigneur.
Mm-hmm. C'est important peut-être de comprendre que la grâce de Dieu est toujours disponible. Mm-hmm. Et même si, parce que l'on parle de condamnation, il y a des personnes qui n'étaient pas au Seigneur, qui sont revenus, les choses anciennes sont passées. Mm-hmm. Il y a des personnes qui sont dans le Seigneur, et puis parfois, ça arrive que ces personnes-là commettent un péché comme ça, et puis ces personnes culpabilisent, comment moi, avec tant nombre d'années dans le Seigneur, j'ai pu encore tomber dans des travers pareils. Mais vraiment, c'est important de comprendre que la grâce de Dieu est disponible, et que quand Jésus il est mort à la croix, vraiment, il a pris notre condamnation, il a pris les choses qui nous limitaient, il s'est fait pécher, pour que nous soyons justice de Dieu. Et c'est vraiment important de toujours élever ces justices-là, en fait. Mm-hmm. C'est que chaque fois, il ne s'agit pas d'aller vivre dans le péché, mais chaque fois qu'on commet des erreurs, il faut toujours se rappeler que Jésus s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Donc, on ne peut plus se laisser condamner par des pensées, par nos propres actions, mais on s'appuie, on vit par la foi de ce que Jésus a accompli. Et on choisit de s'appuyer sur cette foi-là pour marcher, mais pas sur nos œuvres. Mm-hmm. C'est vraiment ce que Jésus a fait qui doit compter pour nous. Et ça, ça enlève tout sentiment de condamnation.
De condamnation. Et quand on se sent condamné, nous, chrétiens, la condamnation peut aller à un tel point qu'on va se demander, mais parfois on va dire, je ne suis même plus sauvée, je n'hériterai pas de la vie éternelle, j'ai perdu mon salut. Et Michael, tu vas répondre à la question justement d'un téléspectateur, Joseph de Suisse, qui a demandé, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut perdre son salut? Grande question. Là,
grande question, les gens longue réponse. Je peux te dire, moi, je ne réponds pas en 5 minutes à cette question.
Vas-y, chérie, explose le chronomètre.
Non, c'est une question très délicate, parce que dans le corps de Christ, il y a différentes écoles concernant cette question. Alors, il y a trois grandes écoles. Il y a l'extrême droite. L'extrême droite qui dit sauver un jour sur terre, sauver toujours. Tu es scellé du Saint-Esprit et tu ne peux pas perdre ton salut à moins d'être un grand, grand, grand homme de Dieu ayant vécu de grandes, grandes, grandes choses et de sciemment, en pleine conscience de choses, renoncer à Jésus. Voilà, ça c'est l'extrême droite. À l'extrême gauche qui dit, qui met justement cette condamnation. Alors l'extrême droite, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça pousse les gens à vivre dans une grâce surabondante, disant bon, je peux mener ma vie comme je veux, peu importe, après tout, Dieu m'aime, Jésus a payé le prix, il suffit que je croie en lui. Et puis l'extrême gauche, c'est ils mettent les gens sous une condamnation. Si tu meurs et que tu as commis un péché sans avoir demandé pardon pour ce péché, c'est la fin pour toi, tu vas te retrouver devant le grand trône de Dieu, être jugé, être jeté dans l'étang de feu, et les gens qui se retrouvent avec une condamnation à mener une vie, régler la loi, c'est la loi, et puis il y a l'intermédiaire. Et moi, ma conviction, quand je lis la parole de Dieu, elle se trouve dans cet intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est que on ne perd pas son salut comme ça, comme on perd quelque chose, mais on fait le choix de se détourner de la foi en Jésus, et là, ça devient dangereux. Donc, c'est un choix. Et c'est un choix qui n'arrive pas comme ça par hasard. Il faut vraiment avoir été malmené par le diable, malmené et avoir fait des mauvais choix pour arriver au stade où vraiment dans ton cœur, tu perds la foi en Jésus. Mm-hmm. Parce que ce qui sauve, le brigand sur la croix est un bon exemple, c'est pas nos œuvres, on le sait, c'est pas parce qu'on a mené une vie droite, une vie sainte, on est sauvé par grâce, Éphésiens chapitre 2, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de douce, de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Mm-hmm. Et ce brigand, il a mené une mauvaise vie, il a été coupable, il a juste cru en Jésus, regretté sa vie et cru en Jésus. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et par la foi en Jésus comme son sauveur seul, capable à pardonner ses péchés, lui offrir la vie éternelle, il a été sauvé. Mm-hmm. Donc, on est sauvé par la foi en Jésus comme son sauveur. Je crois en lui, je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il va au dernier jour me justifier parce qu'il est mort pour moi et il m'aime. Maintenant, si on est sauvé par la foi et que on perd la foi, on se détourne de la foi. À un moment donné, on n'arrive plus à croire que Jésus est le sauveur du monde. Mm-hmm. C'est possible. Mais pour arriver à là, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment être malmené. Bah là, on ne sera plus justifié. Mm-hmm. La Bible est claire.
On choisit de croire, en fait, que Jésus voilà. est le plus sauveur du monde. C'est pas...
Puisqu'on est mm-hmm. justifié par la foi, quand on croit en Jésus, on est justifié, on est sauvé. Si on n'a plus la foi en Jésus, mm-hmm. bah on ne peut plus être justifié. Bon, on va voir ce que dit la parole de Dieu. Et le diable, en fait, va faire tous ses efforts pour pousser les gens à ne plus croire en Jésus comme leur sauveur. Et qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il va utiliser trois armes. La première arme, c'est la séduction par les faux enseignements, des doctrines de démons. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, donc c'est des gens nés de nouveau, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si... vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Mmh. » Et là, on voit que l'église de Corinthiens, il y avait un mouvement dans le contexte. Les gens commençaient à être séduits par des faux enseignements qui remettaient en cause la résurrection d'entre les morts, donc même la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, comment tu peux croire encore en lui pour qu'il soit vivant pour pardonner tes péchés ? Donc là, si les gens... par des séductions diaboliques dans l'enseignement, ne crois plus dans ce message de grâce de l'évangile que Jésus est vivant et qu'il va pardonner tes péchés, ben, à un moment donné, tu ne finis par plus croire. Et là, tu perds la foi. Tu n'as plus foi dans l'évangile qui sauve, en fait. Et là, l'apôtre Paul, il est clair. La deuxième arme que le diable va utiliser pour pousser les chrétiens à se détourner de la foi en Jésus, c'est la persécution. Apocalypse chapitre 2, verset 10, le Seigneur parle à l'église de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, donc dans ta foi, et je te donnerai la couronne de vie que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit, il dit l'Esprit aux églises, celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mmh. Apocalypse chapitre 20, verset 14 dit c'est quoi la seconde mort ? C'est être jeté dans l'étang de feu. Donc là, on voit encore que le plan du diable, la stratégie du diable, c'est de pousser les chrétiens, les persécuter, les mettre en prison pour que finalement, sous l'oppression, la souffrance dans la prison, ils puissent arriver à un stade dans leur cœur où ils doutent même mmh. de l'existence de Dieu.
Ouais.
Comme Jean-Baptiste, à un moment donné, dans la prison, était troublé. Il a envoyé ses disciples. Mmh. « Es-tu réellement le Christ, celui qui devait venir ?» Parce que quand on est en proie à cette solitude, à cette pression, à cette torture, comme ça a été le cas pour l'Église en Chine, en Syrie, t'as tellement de gens, le diable pousse les gens à douter. Mmh. Et en fait, tu peux arriver à un stade où, sous la pression, tu te dis « Mais pourquoi Dieu, pourquoi tu me laisses là ?» et arriver à vraiment être confus dans ton cœur et à douter même que Jésus est vivant. Mmh. Et puis la troisième arme que le diable va utiliser pour détourner les chrétiens de la foi qui les sauve en Jésus et en Jésus seul, endurcir son cœur par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères, là encore on parle à des chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc il était face au Dieu vivant, et il se détourne. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Mm-hmm. » Et Un chrétien qui choisit de demeurer dans le péché, qui choisit de pratiquer le péché, de rester là-dedans, et sa conscience le reprend, comme Pasteur Christine disait, non, ne fais pas ça, c'est pas bien, reviens, tu sais la vérité. Et que malgré tout, il demeure, il est en train de cautériser sa conscience, comme la grenouille qu'on met dans l'eau chaude, l'eau bouillante, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train d'endurcir son cœur. Et son cœur peut devenir tellement endurci à cause du péché, qu'il côtoie, qu'il pratique, qu'il l'affectionne et qu'il a finalement choisi volontairement, qu'à un moment donné dans son cœur, il se passe des choses très mauvaises, son cœur s'endurcit et sa foi en Jésus-Christ même devient ébranlée. Et l'apôtre Paul va dire justement, souvenez-vous, l'auteur du livre des Hébreux va dire, souvenez-vous d'Israël qui est sorti de l'Égypte, qui a été libéré du monde, libéré de Pharaon, comment en fait leur cœur s'est endurci et ils ne sont pas rentrés à Canaan, la terre promise, la terre de la destinée. 1 Corinthiens 10 dit aussi, prend ce parallèle. Et 2 Pierre 2,20, si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition est pire que la première. Et là, on voit certaines traductions disent « vaincus par le péché ». Donc, on peut atteindre, parce qu'on caresse le péché, on a choisi le péché, on a choisi volontairement de ne pas suivre et ne pas obéir au Seigneur Jésus. À un moment donné, notre cœur devient tellement dur qu'on est vaincu par ce péché. On atteint un point comme de non-retour où finalement, j'ai fait mon choix et finalement, tu ne choisis plus Christ. Et ta foi est vraiment balayée. Et je finis par Apocalypse, chapitre 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur, donc encore une fois, celui qui mourra sur cette vie sur terre, mais qui gardera la foi en Jésus comme son sauveur, qui le justifie, qui le pardonne, qui fait qu'il est devenu enfant de Dieu, jusqu'à la fin, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc en conclusion, oui, on peut perdre son salut, mais c'est pas comme ça. C'est ça. Un choix qu'on prend, une décision
volontaire.
Où on choisit de se détourner de Jésus-Christ.
C'est ça, c'est pas « j'ai commis un péché, ça y est, ma vie est terminée, tout est terminé ». C'est vraiment une décision volontaire de renoncer à la foi, de renoncer à ce qui est l'essence même en fait, de notre salut. Et à ce moment-là, on perd notre salut. Bonne réponse, merci. Je pense, Joseph, que c'est bien clair. Je vous invite à relire peut-être ces passages de la Bible pour ceux qui n'ont pas, parce que c'est presque une étude approfondie qu'on vous offre en quelques minutes là. Donc n'hésitez pas à méditer sur ce thème si vous le désirez. Merci chérie d'avoir pris le temps de répondre à cette question très délicate.
Pas de quoi, mais ne vous condamnez pas.
On va continuer maintenant tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre « Le conflit est terminé » de Andrew Womack. On va regarder tout de suite la vidéo de présentation.
Oui, un livre qui vient vraiment approfondir tout ce qu'on a pu se dire en fait tout au long de cette émission par rapport à la condamnation. D'ailleurs, le sous-titre est « Dieu n'est pas en colère contre vous, ne laissez plus le péché, la peur du jugement vous tourmenter ». Et en fait, Andrew Womack, dans ce livre, met vraiment l'accent sur la relation d'amour qu'on a avec Dieu, mais du côté de Dieu, parce que souvent on est focalisé sur nous, mais comment Dieu nous aime. Il dit, en parlant du verset de 1 Jean 4 au verset 9, oui, et cet amour, l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et il nous dit, quelle vérité grandiose, vous n'avez pas à aimer Dieu en premier pour qu'il vous aime en retour. Dieu est celui qui aime en premier, recevez cet amour divin et soyez rendus capables d'aimer Dieu et les autres. Et en fait, c'est tout au long de son livre, il approfondit sur cet amour que Dieu a pour nous. Et une fois qu'on a compris en fait tout l'amour que Dieu avait pour nous, il n'y a plus de condamnation possible, il n'y a plus de jugement possible. Et je pense qu'il n'y a plus non plus de volonté d'abandonner notre foi en Jésus-Christ. Il parle d'ailleurs de la perte du salut. Est-ce qu'on peut perdre notre salut comme ça? Tu meurs et la seconde d'avant, tu avais péché. Comment ça se passe? Donc, il relativise. Et en fait, Andrew Uma, qui est quand même un petit peu controversé par rapport à son message sur la grâce et la bonté de Dieu, et il en parle. Il dit « Lorsque les gens m'accusent de prendre le péché à la légère, je leur réponds « C'est vous qui prenez Jésus à la légère. Je ne prétends certainement pas que le péché est insignifiant et que vous pouvez vous rouler dedans à volonté. Le péché est terrible, mais son impact est moindre que celui du sacrifice de Jésus. Le Seigneur a payé sa vie pour le rachat de tous nos péchés, et ce paiement est infiniment plus important que les péchés du monde entier. Une goutte du sang de Jésus est plus sainte, plus vertueuse, plus pure que toutes les impuretés et les impiétés du monde entier réunies. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, son sacrifice a satisfait pour toujours la colère de Dieu envers les hommes. C'est uniquement dans ce sens que j'avance que le péché n'est pas le problème. Donc, c'est vraiment un livre d'enseignement. C'est très, très profond quand même, faut le dire. Donc, c'est un livre, faut prendre le temps de le lire et de recevoir la révélation qui l'accompagne. Mais vraiment, Andrew Womack, Le conflit est terminé. Très bon livre, surtout pour défaire des mauvaises mentalités ou des mauvais enseignements qu'on a pu recevoir, qui est disponible sur ma boutique chrétienne à 16 €.
Merci Annabelle. On continue maintenant avec la rubrique témoignage. Aurélie, aujourd'hui tu nous présentes un témoignage d'un jeune homme qui a rencontré le Seigneur sur enseignement.com.
Oui, exactement. Evelyne nous a envoyé une petite vidéo qu'on peut regarder maintenant.
Donc je voyais votre émission, c'est-à-dire que j'étais un inconverti au fur et à mesure, et grâce à ma petite amie, et elle m'a amené à beaucoup plus avoir du temps pour venir regarder l'émission. Et vraiment, ça m'a vraiment touché. Et après, j'ai commencé à voir les pasteurs comme Masnous Tounassir, Mohamed Sanogo, Ivan Castano. Et après, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je sentais que j'étais vraiment loin du Seigneur. Et maintenant, par les émissions, c'est comme si on s'entrait franchement seulement à moi. Et j'ai compris que non, il faut que je donne ma vie au Seigneur. Et après, c'est-à-dire, après ça, j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, j'ai vu des miracles. C'est-à-dire que j'ai vu comment j'avais péché contre lui, et j'ai dit que bon, plus jamais dans ma vie, je pécherai contre mon Seigneur Dieu. Et j'ai dit que par moi, j'aurais ramené beaucoup d'âmes. Et j'ai vu aux gens que j'étais un pécheur plus que vous ne pensez. Donc, je pense que vous, le Seigneur Dieu est heureux pour tout le monde, et il vous attend, il vous aime tellement, et j'ai compris que c'est lui même tellement. Donc, ne vous amusez pas. Je vous aime et que le Seigneur vous aime. Prenez foi, revenez au Seigneur Jésus, il vous attend. Et soyez en sûrs, il vous aime beaucoup.
Amen.
Amen. Oui, Amen. Bon message de quelqu'un vraiment dont la vie a été transformée par le Seigneur. Et il vient de loin, hein. Là on n'a pas eu le temps de tout écouter, mais il dit un peu comment il a vécu dans le monde, dans la fornication, boîte de nuit, adultère. Il dit qu'il y a même des péchés qu'il s'était dit qu'il n'allait jamais commettre, mais il s'est retrouvé en plein dedans. Et c'était ça la vie qu'il avait en fait. Donc, du coup, il avait une longue liste comme ça, et puis il est tombé sur cette copine dont il parle, qu'il a encouragé un jour à regarder enseignement. Il est tombé sur plusieurs pasteurs qu'on diffuse sur la chaîne. Il parle de pasteurs Marcelo Tounassi, Mohamed Sanogo, Ivan Castano. Et il a commencé aussi à regarder nos vidéos parce qu'il nous dit qu'il aime nos émissions. Et puis, il a donné sa vie au Seigneur. Il a été convaincu du péché. Et vous voyez maintenant, lui aussi, il a l'envie de dire à d'autres personnes, mais arrêtez de vivre cette vie-là, parce qu'il y a Dieu qui existe vraiment, qui a payé le prix pour qu'on ne puisse plus mener ce style de vie. Et c'est ce qu'il fait, comme on a pu le voir. Donc, rend gloire à Dieu.
Vraiment.
Pour des témoignages aussi puissants.
Amen. Amen. C'est toujours encourageant de voir ce que le Seigneur fait au travers de MCI, des prédications, parfois même des prédications qui datent. Vous voyez, ça vaut la peine de vous déplacer à MCI TV. Hein. Ça vaut le coup. Hein.
Oui, jusqu'en Chine. Là.
Jusqu'en Chine, exactement. Il est en Chine. Il étudie en médecine, je pense, en Chine. un gros voyage pour lui. Merci à vous tous pour cette émission. Nous l'aurons compris vraiment l'importance de ne pas se condamner. C'est terrible les dégâts que peut faire la condamnation, l'auto-condamnation. On se sépare de cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. On n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la parole, on n'arrive plus à aller à l'église, on n'arrive plus à être en contact avec des frères et sœurs parce qu'il y a toujours cette condamnation qui revient donc à la maison. Si vous faites partie de ces gens qui êtes victimes de cette auto-condamnation, arrêtez tout de suite à partir d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, mais prenez autorité sur ces pensées mensongères qui sont dans votre tête. Refusez-les et souvenez-vous du sacrifice de Christ qui est complet, qui est suffisant pour effacer tous vos péchés, racheter toute votre vie, peu importe ce que vous avez fait avant de rencontrer le Seigneur, ça n'a plus aucune importance aux yeux de Dieu. Et ce que vous avez fait ensuite, si vous vous êtes sincèrement repenti, Dieu l'a oublié, c'est terminé. Donc vous, ça ne sert à rien de continuer à y penser et à méditer sur ça. Soyez encouragés, nous vous aimons beaucoup. On se retrouve demain. Le thème sera « Pries-tu pour tes bien-aimés dans le besoin ?» Et nous aurons la rubrique « Famille » avec Frank qui nous parlera de l'importance de la prière dans le couple. Ne manquez pas cette émission. Et nos invités, on vous retrouve jeudi pour une autre émission formidable. Merci à tous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.